Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler de la Journée panafricaine des femmes, célébrée chaque 31 juillet. Pour l'édition 2017, le thème est Jar et Migration. Nos invités sur ce plateau, Madame Aïdara Bernadette Keïta, conseillère technique Jar au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Brema Elidiko, sociologue, Edressa Sako, journaliste aux Échos. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
La Journée panafricaine des femmes est célébrée cette année à Kaye sous le thème Jar et Migration. Madame Aïdara, pourquoi le choix de ce thème cette année et dans la région de Kaye?
Merci bien. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et je remercie le studio Tamani pour avoir organisé une telle émission. Et aussi, permettez-moi de dire un petit bonjour à M. Neite, qui est à Koulikoro, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et donc je remercie encore une fois pour cette initiative. Et bonjour encore à tout le monde. Donc sans plus tarder, pourquoi le thème, c'est-à-dire pourquoi ça a été choisi, oui, à Kaye. Kaye, tout le monde sait que c'est une région de migration. Et même, bon, pas du Kaye, mais d'une manière générale, le Mali a été reconnu comme un pays qui a beaucoup aimé voyager. Le Mali a beaucoup aimé voyager. Ça, c'est depuis dans le temps ancien. Donc, mais de nos jours, il est reconnu quand même que Kaye, quand même, est une région vraiment d'immigration, de forte immigration. Et pourquoi le thème? Parce que nous voyons que à la télé, c'est incroyable. Et l'État, le gouvernement en a fait une priorité. Le gouvernement aujourd'hui a fait une priorité et pour essayer vraiment de faire face à ce phénomène qui est en train de décimer notre jeunesse. Parce que c'est les jeunes qui très souvent vont à l'extérieur pour chercher un mieux-être. Parce que pour eux, c'est en allant vers l'extérieur, vers l'Europe, c'est vraiment là où ils peuvent avoir ce qu'ils désirent, avoir un bien-être, avoir l'argent. Donc en fait c'est ça. Donc le choix de Kaye n'est pas fortuit. Cette année, le ministère a jugé utile de délocaliser la célébration. Chaque année se faisait à Bamako et qu'il y a des régions aussi emboîtaient le pas. Mais cette année, vraiment, compte tenu de l'importance et vraiment du fait que le gouvernement, le président de la République en a fait une priorité, nous avons jugé utilement de commun accord avec le ministère des Mines de l'Extérieur de choisir ce thème et d'aller célébrer cette journée à Kaye.
Mais quand vous dites JAR et migration, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a plus de femmes migrantes que d'hommes ou bien les femmes commencent à migrer maintenant plus que les hommes?
Voilà, merci bien. Parce que dans le temps, c'était vraiment une migration. C'était les hommes qui partaient, mais c'était surtout familial. Parce que justement, les femmes allaient rejoindre souvent leur mari. C'était fréquent. Quand le mari se marie, quand l'homme se marie, il va à l'extérieur, par exemple en France, il a un peu les moyens, il demandait à ce que sa femme et ses enfants le rejoignent. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez normal. Mais de nos jours, ça a pris une autre dimension. Les femmes vont seules. Mais là, quand même, il y a plusieurs catégories. Il y a celles qui vont à la recherche du gain, celles qui vont pour étudier. Donc, il y a vraiment beaucoup de cas qui sont là. Mais de plus en plus, on voit vraiment que les femmes sont beaucoup plus concernées par ce phénomène. Et surtout aussi les enfants non accompagnés. On voit la télé. Donc, raison pour laquelle cette année, on dit que genre, pas qui dit genre, c'est homme et femme. Mais l'accent est surtout mis sur la femme qui est une couche vulnérable. Et on voit que de plus en plus, ce sont les femmes qui sont exposées à cette migration. Avec toutes les conséquences que nous allons peut-être développer après.
D'accord. Merci. Alors, Monsieur Diko, JAR et migration, qu'entendez-vous par ça?
Bien, bonsoir à tous. Merci de m'avoir associé à cette réflexion. Jard et migration, c'est pour inviter les uns et les autres, en fait, à ne plus considérer la migration comme étant quelque chose qui est réservé aux hommes, mais c'est pour dire que finalement, c'est un phénomène qui touche à la fois l'homme et la femme. Elle a bien brossé dans son tableau, quand vous prenez la migration malienne, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, qu'elle soit en fait l'histoire lointaine depuis l'Empire de Ouagadougou, que ce soit avec, sous la colonisation, ou même les premières années de l'indépendance, c'était beaucoup plus l'immigration essentiellement masculine, juvénile, et c'était le fait des hommes célibataires. Mais comme elle l'a dit, par la force des choses, lorsqu'on a commencé le durcissement des politiques migratoires dans les pays d'accueil, notamment au milieu des années 70, l'opportunité a été donnée à certains hommes qui remplissaient certaines conditions de faire venir leurs femmes. Donc à partir de 1986, on a vu se développer les politiques de regroupement familial. Mais comme elle l'a souligné, depuis les années 90, on assiste vraiment à une migration féminine qui est importante. Ça veut dire qu'au début, c'était une portion congrue. Mais quand vous prenez les 4-5 millions de Maliens à l'extérieur, parce que là, malheureusement, les chiffres sont toujours les mêmes. Depuis 10 ans, ça n'avance pas. Mais dans tous les cas, si vous prenez les migrants maliens à l'extérieur, c'est un quart de la population malienne. Et les femmes représentent au moins 40 à 45% de cette population. Au début, elles étaient pratiquement invisibles, accompagnantes par la suite, mais de plus en plus, comme elle a dit, elles partent elles-mêmes et certaines même deviennent des commerçantes transnationales, c'est-à-dire qu'elles peuvent être basées à Paris, mais tournent entre Dubaï, la Chine et autres, donc saisissent les mêmes opportunités, suivent les mêmes trajectoires migratoires que les hommes et donc sont autant impliquées. Mais ça, c'est la migration internationale. Le problème, c'est que le focus n'a pas été mis longtemps sur la migration interne, parce que si on avait raisonné en termes de migration interne, on allait voir que, aussi loin qu'on remonte dans la constitution de l'État-nation au Mali, la migration féminine et la migration masculine, les deux ont commencé au même moment à l'intérieur du Mali. Mais c'est la migration internationale qui est récente. Sinon, les femmes ont migré dans les capitales régionales pour travailler pour des bourgeoisies locales, donc comme aides ménagères, donc elles sont victimes de tous les sobriquets que vous connaissez. Donc vraiment, œuvrer comme ça, regarder en tant que femme immigration, genre immigration, de mon point de vue, c'est aussi dire que en termes de contribution même des migrants, ce ne sont plus seulement les hommes qui contribuent au développement ni au bien-être de leur famille restée, mais c'est aussi la part des femmes qu'il convient de prendre en compte. Quand vous regardez en 2016, les Maliens de la diaspora ont investi 476 milliards de francs CFA. Et quand ces fonds sont transférés, la majeure partie des fonds est gérée d'abord par les femmes qui sont restées, mais aussi, et quand vous regardez les fonds envoyés, et les fonds envoyés aussi sont beaucoup le fait aussi des femmes. Donc c'est autant le fait des hommes que des femmes. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus et de creuser davantage.
Alors, M. Sacco, quel est votre constat par rapport à ce que Mme Aïdara et M. Diko viennent d'avancer?
Merci beaucoup. Je pense que, comme l'ont bien souligné Mme Aïdara et M. Diko, ce thème est une interpellation de la conscience collective. Parce que le phénomène de la migration, nous l'avons connu depuis les temps immémoriaux. Le Mali, globalement pris, est un pays de migration, notamment de façon spécifique, la région de Kaï, quand même, est la région la plus indexée et qui offre le plus de migrants que les autres. Donc c'est culturellement ancré dans nos traditions. Mais lorsque la femme, en tant que couche sociale vulnérable, s'y met, il y a lieu de se poser, parce que la femme, dans notre culture, n'est pas un pilier de la famille, n'est pas le soutien de la famille. Participe au bon fonctionnement de la famille, mais n'est pas quand même le soutien matériel de la famille. Mais lorsque la famille rassemble ses effets et prend le chemin de l'exil pour aller chercher et subvenir aux besoins de la famille, il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de s'alarmer. Voilà le sens que je donne à ce thème.
Mais selon vous, que peuvent être les raisons de ce phénomène?
Pour moi, c'est surtout la précarité, la paupérisation. Vous savez, nous sommes dans un état où, depuis les temps immémoriaux, nos activités sont connues, c'est de l'agriculture, l'élevage, la pêche. Vous prenez le Mali, on dit que l'économie du Mali repose sur ces trois grands axes. Vous prenez la région de Kaï, qui est une région un peu défavorisée, qui est au cœur du Sahel, où les conditions ne sont pas aussi généreuses que les autres parties du pays. Donc, c'est partant de là, après la daba, c'est-à-dire après l'hivernage, les activités sont le commerce. Tout le monde est commerçant dans la région de Kayes pratiquement. Il y a plusieurs compartiments du commerce, mais tout le monde participe au développement du commerce. Donc, et les ressources étant limitées, il faut sortir de ce choix pour aller découvrir. Et petit à petit, les premiers qui sont sortis ont quand même donné de bons exemples. Ils sont devenus des soutiens de toute la communauté. C'est eux qui payaient les impôts, c'est eux qui prenaient en charge les dépenses des familles, leurs familles, les familles voisines, les familles. Par exemple, dans la société Soninké, il y a l'interpénétration, c'est-à-dire on est tous parents. Donc, un élément de la contrée qui va en France, par exemple, quand il envoie une somme, c'est toute la communauté qui en bénéficie. On éclate l'argent, on donne à la tante, on donne à l'oncle, on donne aux voisins, on donne aux cousins. Chacun est content de recevoir 5 francs de l'enfant qui est sorti. Donc ça fait une tâche d'humide. Moi, mon enfant qui est à côté, j'ai dit, bon, tu es là, tu n'es plus à l'école, mais l'école est fermée, qu'est-ce que tu attends? Va tenter ta chance. Donc, c'est comme ça que la migration a pris de l'ampleur. Maintenant, comme elle l'a dit, les femmes, c'était celles qui étaient mariées à ces immigrés. Elles accompagnaient d'abord leur mari. Maintenant, quand vous accompagnez votre mari à l'extérieur, vous avez de la main à la pâte, vous trouvez quelques activités à faire, vous aussi, vous participez à la maison. La famille paternelle et la famille conjugale. Donc ça aussi, ça fait des jaloux. C'est comme ça que le phénomène a pris de l'ampleur. Et mais les femmes maintenant rassemblent, les femmes sont volontaires maintenant.
Mais est-ce qu'on dirait que c'est culturel?
C'est culturel parce que chez nous, quand tu ne fais rien à la maison, tu ne vas pas à l'extérieur, on te considère comme l'enfant qui n'a pas assez de bénédictions.
D'accord. Alors, M. Diko, est-ce que vous partagez les mêmes propos que M. Sako?
Oui, tout à fait. De toute façon, le constat est le même. Je vais juste ajouter des aspects. Donc, les raisons sont économiques, les raisons sont sociales, les raisons sont culturelles, comme vous l'avez dit. Mais au-delà, il y a aussi le désir d'autonomie. Parce qu'en fait, partir en migration, certes, au-delà de toute la souffrance, ça permet d'acquérir des ressources dont on n'a pas forcément si on reste peut-être au niveau local. Et donc, c'est partir pour peut-être faire du commerce. Parce que moi, quand j'étais à Paris, dans le cadre de ma thèse, j'ai rencontré beaucoup de femmes commerçantes qui, en réalité, n'ont rien à envier aux hommes, qui sont des commerçantes, souvent issues peut-être des familles commerçantes aussi. Donc, bon, elles s'appuient sur les réseaux des hommes, en fait, des oncles et autres. Mais ça permet à ces femmes d'être des femmes autonomes qui aussi dans certains cas peuvent renégocier même leur place dans le foyer, parce que lorsque je ne contribue pas et lorsque je contribue, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous savez que partir, ça fait même finalement partie de l'identité soninké. C'est comme si on ne part pas, on n'est pas en fait un homme accompli. Donc c'est devenu une sorte de rite initiatique. Et vous regardez dans la région de Kayes, parmi les critères de choix d'un mari, maintenant il y a la question de la migration. Et donc on a aussi de plus en plus de jeunes migrants, enfin de jeunes kayésiens, soninké ou autres, qui aussi aspirent à partir de la migration, grâce aussi à des femmes. C'est-à-dire que si avant ce sont les femmes qui accompagnaient les hommes, de plus en plus on a aussi des femmes qui sont installées là-bas, qui viennent se marier avec des hommes au niveau local. Et grâce donc justement à ces mariages arrangés ou des raisons, si vous voulez, les hommes aussi arrivent à partir. Donc c'est-à-dire qu'il y a un retournement de la situation en fait en faveur des femmes.
D'accord. Alors, Madame Aïdara, selon vous, quelles peuvent être les contraintes auxquelles elles font face?
Là, c'est les contraintes, c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on voit que si l'État a jugé utile maintenant d'en faire une de ses priorités, et si nous aussi, à notre département, on a pris un thème et on veut aller en parler à Kayes, c'est parce que il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Les femmes, tout le monde sait que actuellement la vie n'est pas facile. Partout dans le monde, c'est vraiment des difficultés. Ces femmes qui vont sont souvent exposées à beaucoup de difficultés. Mais vous voyez, lors de traverser ce qu'on voit, c'est extraordinaire. Et certaines qui perdent la vie. Et une fois là-bas, c'est pas évident que automatiquement arriver sur ça, dit qu'en Europe, qu'elles puissent avoir un travail ou bien qu'elles fassent quelque chose. Donc c'est un problème parce que là maintenant elles vont être obligées à faire des choses vraiment qu'elles ne devaient pas faire. Bon, mais aujourd'hui nous voyons que les femmes, surtout que pour facilement entrer dans ces pays, ce que nous avons eu à les qu'on a reçu au niveau de ça dit qu'au niveau de ministère, les femmes se font même maintenant inséminer pour être en grossesse, parce que tout le monde sait qu'une femme qui est enceinte là dans les pays européens, vraiment c'est une femme qu'il faut devoir prendre en charge, parce que vraiment pour l'enfant c'est très important. Le fait que certaines mêmes se font inséminer au niveau de vers la Libye pour pouvoir entrer en Europe, donc c'est pour dire que de nos jours, il y a trop de problèmes que rencontrent ces femmes. Et raison pour laquelle, c'est un cri de cœur que le ministère est en train de lancer pour essayer de convaincre ces femmes qui, même si certaines ne vont pas, mais elles poussent leurs enfants à partir. Parce que quand une femme dit à son enfant, toi tu es assis là, telle personne, le fils de telle personne est enfant, toi tu es là à dormir. Donc vous voyez, donc c'est d'une manière aussi, même si ça dit qu'elle n'est pas pas, mais ça dit que passivement, elle est responsable souvent d'envoyer les enfants vraiment à l'extérieur. Et très souvent, certains petits enfants portent, certaines femmes aussi partent, c'est pour mourir, c'est pour aller mourir dans les océans. Donc il y a ça, mais mieux encore, souvent aussi, elles vont aussi à l'extérieur, elles n'ont même pas là où dormir. Donc c'est des femmes qui sont aussi souvent exposées à souvent de la, excusez-moi, la prostitution, tout ça pour vraiment avoir quelque chose, pour ne pas retourner au pays. Parce que certains vous disent, je veux aller mourir. Ça dit que même dans les océans, que de revenir au Mali. Parce que de plus en plus, on voit quand même que la femme veut être sur le plan financier, veut être vraiment autonome. Bon, nous au ministère, nous voulons, c'est-à-dire en train de lutter pour l'autonomisation de la femme, mais de se faire vraiment dans un cadre bien structuré. Mais on ne veut pas que les femmes aillent à l'extérieur soit pour mourir, soit pour vraiment être confrontées à des difficultés vraiment que nous ne voulons pas.
Et quelles sont les perspectives qui les sont offertes?
Bon, en tout cas ici, au niveau de notre département, ce que nous sommes en train de développer, c'est surtout vraiment l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, et aussi ça dit que les AGR, activités agencées de revenus, afin que les femmes, qu'on puisse les maintenir au niveau des villages et même au niveau de Bamako. Parce que celles qui vont, si elles vont dans le cadre des études, c'est vrai, ça c'est bon, parce que souvent elles vont, certaines ont une bourse, elles vont étudier. Mais même celles-ci aussi, une fois qu'elles sont là-bas, après les études, elles refusent de venir. Mais nous, en tout cas, au niveau du département, c'est que la stratégie qu'on développe, c'est surtout la stratégie dans le développement de l'entrepreneuriat féminin. Les maintenir autour de des activités qui pourraient vraiment leur procurer l'argent, le bien-être. Et même aussi, les aider aussi à aussi faire participer d'autres femmes. Parce que si, par exemple, une femme a quand même une entreprise qui marche bien, qui est rentable, elle peut aussi recruter d'autres femmes. Donc, c'est ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la stratégie qu'on veut, c'est pour les maintenir. Maintenant, à Kay, lors de cette journée, c'est pour sensibiliser. On va sensibiliser, on va peut-être même projeter des films pour, c'est-à-dire, amener les femmes à ce qu'elles restent et aussi vraiment à sensibiliser les femmes à ce qu'elles puissent maintenir leurs enfants à leur côté. Ne pas les aider, c'est-à-dire que les demandes de partir à choses, pour chercher de l'argent.
Alors, M. Diko, est-ce que vous pensez que ces mesures sont-elles suffisantes?
Même elle-même, elle sait que non, mais de toute façon, c'est un début de solution. L'important, c'est d'essayer de faire quelque chose. Je pense faire en s'imposant à Kay dans une zone d'émigration, parce que la région de Kay est une région pourvoyeuse de migrants. C'est déjà discuter avec les acteurs et les actrices de la migration, les parents donc des migrants et des migrantes, pour voir quelles sont, selon eux, les solutions. Donc, c'est pour ça, c'est peut-être ça aussi le sens de se déplacer, aller à Kay, pour y écouter du point de vue des acteurs quelles peuvent être les solutions alternatives. Mais bon, même si on fait ça, il ne faut jamais oublier que même si le Mali s'est développé et qu'on atteignait le stade des États-Unis, que les gens continueront à partir. sortir, parce que quand même, si vous regardez les médias, il y a une image misérabiliste de l'Europe qui est véhiculée, et puis une image du monde occidental, mais vraiment dans son entièreté, comme étant le paradis, donc où tout est facile, on montre les belles avenues, les belles maisons, et donc cela pousse les gens à partir. Mais au-delà de ça, partir est un droit, donc ça veut dire que les agières, c'est une bonne chose, l'entrepreneuriat féminin est une bonne chose, mais ça ne va pas endiguer, en tout cas, le flux des départs. Les gens vont continuer à partir, parce que quand vous regardez même la liste des pays pourvoyeurs de migrants au monde, vous allez voir qu'en réalité, ce sont les Américains qui sont en tête, après il y a les Allemands, il y a les Français, donc ce sont ces grands pays aujourd'hui qui se plaignent des migrants, qui en réalité ont le plus de migrants dans le monde. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir que les Américains sont au Canada et qui sont en Australie. Vous allez en France, ils sont au Canada et ensuite aux États-Unis, en Amérique. Donc en fait, il y a au moins 200 000 Français en Angleterre. Donc c'est pour vous dire que le développement ne suffit pas pour endiguer les fléaux. Donc c'est quand même un bon début. Je pense que cela donne des perspectives, parce que lorsque on ne sait pas qu'est-ce que demain sera, on est tenté par beaucoup de choses. Et comme on le dit, les routes de la migration irrégulière sont des routes sans pitié, où les femmes, dans bien des cas, non seulement peuvent se livrer à la prostitution, mais peuvent être victimes de viols, voire même d'assassinats, tel qu'on le voit en fait tel qu'on le voit dans certains médias ou tel qu'on peut le lire dans certains bouquins.
D'accord. Mais en général, quand elles arrivent dans ces pays d'accueil, quels sont les travaux qu'elles pratiquent ?
Alors moi, en fait, si je prends le cas de la France que je connais bien, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, dans les foyers, par exemple, ce sont les femmes qui sont les cuisinières, hein, celles qui font les plats dans les restos, des plats qui sont vendus à 2 euros, 1 euro, quelque chose, 1 euro 75. Mais il y a aussi beaucoup qui sont des commerçantes. Qui ont des grandes entreprises, qui sont implantées en région parisienne, mais qui ont des filiales au Mali, dans d'autres pays africains, et qui tournent en fait, qui pratiquent, font même pas un mois en fait en France. J'en ai rencontré qui sont des restauratrices, j'en ai rencontré qui sont des coiffeuses, j'en ai rencontré qui travaillent dans les chaînes d'hôtellerie, il y en a qui travaillent dans les chaînes de télévision ou autres, il y en a qui font aussi le petit boulot, et puis il y a quelques rares qui tombent aussi dans la prostitution, dans la facilité, mais aussi vous allez trouver des femmes, cadres d'entreprise, qui dirigent en réalité des grosses entreprises en fait en France. Donc c'est pour dire qu'en fait elles occupent pratiquement tous les pans de l'économie.
D'accord. Alors Monsieur Seko, est-ce que ces femmes migrantes reviennent souvent investir au Mali?
Très bien. Alors, mais avant de répondre à cette question, moi, je vais mettre les pieds dans les plats comme on le dit, hein, parce que tout ce que Madame Monsieur Diko vient de dire comme contraintes, comme problèmes, comme drames que les femmes vivent. Je pense que toutes ces conditions ont été créées en amont. Ont été créées en amont parce que lorsque vous empêchez les gens de circuler librement, ils sont obligés de trouver d'autres voies pour partir. Parce que, comme il l'a dit, partir est un droit. Mais on a tellement cerné, on a tellement mis des barrières aujourd'hui que les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller vers la mer. Et c'est ce qui est un drame.
Mais qu'est-ce qui explique cette situation?
C'est ça. C'est le phénomène de la mondialisation où chaque État veut s'enfermer, fermer la porte aux autres. C'est justement ça. Sinon, il a dit, je suis heureux de l'entendre, qu'en Europe, il a cité trois grands pays qui sont les plus grands pourvoyeurs de migrants. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, on exploite la pauvreté, la paupérisation de l'Afrique qu'on met en avant pour expliquer le phénomène de la migration. C'est exactement ça. C'est eux qui ont mis des barrières entre les pays. C'est eux qui ont mis des passeports, c'est eux qui ont mis des visas, c'est eux qui ont inventé des mécanismes pour empêcher les gens de se mouvoir. Et lorsque les gens sont ingénieux. Si vous me dites de ne pas passer par cette porte, je trouverai une issue quelque part. Et souvent, à mes risques et périls. Voilà toute l'explication. Donc, on a créé ces conditions. Vraiment, c'est fabriqué, c'est inventé, c'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Donc, pour revenir à votre question, vous me la rappelez.
D'accord. Est-ce que ces femmes viennent investir au Mali?
Dans la plupart des cas, les femmes investissent. Ils investissent, mais c'est de façon tacite. Parce que quand la femme sort, et elle va en Europe, elle se fait de l'argent, elle hésite. Elle hésite d'abord à venir investir parce que les conditions qu'elle vit en Europe ne sont pas les mêmes qu'au Mali. il y a cette hésitation. Est-ce que si je viens, je vais avoir un environnement qui me permet de fructifier et le fruit de mon travail? Il y a l'environnement social, il y a l'environnement économique. Tout ça, on les prend en compte. Toutes choses qui font que les gens hésitent à venir.
Mais pourquoi cette crainte d'investir à cause de la société ou bien du développement économique?
Parce que la précarité est toujours là. Parce que lorsqu'elle vient avec de l'argent, c'est tout le monde. L'argent appartient à tout le monde. C'est ça notre société. Quand vous venez riche, vous avez des parents lointains qui vont venir, qui sont immédiatement qui viendront à vous uniquement pour ça. Donc il y a tout ça, il y a l'environnement social, parce que on n'a pas cette notion d'investissement. On n'a pas cette notion d'investissement, ce qui fait que ce n'est pas seulement les femmes, hein, même les hommes, ils ont tendance à ne pas venir en Afrique avec de l'argent pour investir. Parce que l'environnement socio-économique et culturel ne s'y prête pas beaucoup. Voilà toute l'explication.
D'accord. Alors, Madame Aïdara, est-ce que vous partagez M. Sekou a dit?
Moi, pas tellement, parce que moi, je vois que de plus en plus, les femmes investissent beaucoup au Mali. Tout à l'heure, je vois que M. Dikou a dit plus de 400 quelques milliards.
176.
C'est pour l'année 2016. Donc, c'est pour dire en tout cas que de plus en plus, en tout cas, moi, les quelques cas que je vois, et je vois que les femmes, une fois. C'est-à-dire, même étant là-bas, souvent investissent beaucoup. On voit souvent de plus en plus des femmes qui sont propriétaires d'immeubles ici à Bamako. Donc parce qu'elles savent que ça dit que il faudrait toujours un jour ou l'autre elles doivent revenir au pays.
Absolument.
Ça, l'idée est là. Hein. Mm. Elles savent que tôt ou tard elles doivent venir au pays. Donc elles font tout pour essayer de préparer leur retour. Moi, je connais beaucoup de femmes qui ont construit des villas qui sont en location ici. Et certaines même. Il y a même une que je connais qui s'apprête à rentrer. Parce qu'elle dit que maintenant elle vient et va retourner au pays.
Mais
donc de plus en plus, homme comme femme, on voit qu'elle commence à réfléchir pour dire que ça c'est juste pour un temps bien déterminé. Et tôt ou tard, il faut revenir au pays.
D'accord.
Donc de plus en plus, elles commencent maintenant à investir.
D'accord.
Et surtout les femmes que nous sommes, quand nous partons, nous pensons surtout à nos enfants. Parce qu'on s'est dit, les enfants, il faut les aider. Et vraiment, on voit que les choses commencent beaucoup à changer.
Vous avez parlé d'investissement dans l'immobilier, par exemple, c'est... mais dans quels autres domaines elles investissent le plus?
Bon, tout le commerce. Parce que quand on voit aujourd'hui le marché, surtout c'est les gens qui le commerce d'une manière générale. Ça peut être les voitures, ça peut être même la friperie. En tout cas, de plus en plus, les femmes commencent vraiment à prendre le marché.
Elles sont beaucoup dans la mode. Il y a par exemple celle qui essaie d'allier le tradit et le moderne. Donc pour ne pas citer d'entreprise en particulier, qu'on ne dise pas que je fais de la publicité, il y a ceux qui sont aussi dans l'informatique et beaucoup plus dans la formation. C'est-à-dire que habituellement les gens quittent ici pour aller dans les pays maghrébins ou dans le monde occidental faire des formations à des coûts de millions. Donc il y a des femmes qui sont revenues avec leur mari, qui ont créé des entreprises et qui forment des gens et qui font même former même des gens qui sont de la sous-région. Qui viennent séjourner à Bamako pendant une semaine et pour recevoir en fait des formations en réalité qui sont dispensées aux États-Unis. Donc eux, ils font venir les professeurs américains, français, enfin européens simplement à Bamako. Et ça, c'est le fait des femmes et des hommes. Mais au-delà de ça, vous trouvez que les femmes sont par exemple dans le stylisme, beaucoup sont dans la haute couture, quoi, qui sont en réalité très reconnues au niveau mondial, mais bon, que les Maliens commencent à découvrir maintenant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des barrières. Le problème, c'est que pourquoi les gens n'investissent pas, comme il l'a dit, hein, c'est que qu'on soit homme ou femme, souvent quand les gens partent en migration, beaucoup ne reviennent pas tout le temps. Ils ont l'impression que le Mali qu'ils ont quitté n'a pas évolué. Ils ne connaissent pas qu'il y a des structures dédiées qui ont été créées au bénéfice des migrants. Ils savent qu'il y a un ministère, mais par exemple, je prends le cas de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements. Ils ne savent pas qu'en fait, en 24 heures, on peut monter son dossier. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que les premiers qui ont investi, dans certains cas, sont venus avec des projets. On leur a dit oui, le projet n'est pas bon et réaliste, mais sauf que quand ils sont partis, ils ont vu quelqu'un d'autre réaliser ce projet exactement tel qu'il l'avait conçu. Donc, et puis il y a eu le cas aussi des premiers qui sont venus, qui ont été obligés, qui ont été victimes de raquettes dans l'administration. Malheureusement, il fallait des dessous de table pour pouvoir monter les dossiers, mais tout ça, ça continue malheureusement, mais il y a eu des efforts pour aider des migrants à créer des entreprises en une journée et même à avoir des exonérations en fonction de la nature de l'investissement. Et ces exonérations peuvent aller à 3 ans jusqu'à 7 ans. Mais c'est des choses en fait que les migrants ne connaissent pas forcément toujours.
D'accord. Nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le débat de ce soir réfléchit sur la journée panafricaine des femmes qui est célébrée sous le thème cette année, genre et migration. Et comme invité, nous avons Madame Aïdara Bernadette Keïta, conseillère technique genre au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous avons Brema Elidiko, sociologue, Idrissa Sako, journaliste aux Échos. Alors, parlons à présent de la situation des femmes de migrants qui sont ici au Mali. Alors, Monsieur Diko, comment vivent-elles l'absence de 10 ans ou plus de leur mari?
Bon, 10 ans plus ou moins bien, parce qu'en fait tout cela est relatif. Hein. Il y a des femmes qui vivent très bien l'absence de leur mari. Je dis très bien. Il y en a qui s'en plaignent pas. On va dire oui, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Il y a d'autres qui en réalité savaient que se marier avec un migrant qui est parti avec un visa touriste et qui ne va pas revenir, même si on s'est marié en fait à l'âge de 13 ans, parce que bon, malheureusement les gens se marient en fait de façon très précoce, en 15 ans maximum dans la région de Kaï. Nous avons fait d'autres études qui le démontrent. Et là, la femme, elle sait que quand elle se marie, elle a accès aux biens de la modernité. Elle a accès à une villa, elle a accès à un téléviseur, elle a accès au dernier téléphone. Et puis, chaque mois, il y a de l'argent qui est envoyé. Donc, il y a certaines femmes qui se contentent de ça. Malheureusement, bon, qui compensent l'absence de mari avec l'adultère. Bon, ça, c'est su, c'est connu. Mais il y en a qui en font avec. Mais il y a aussi d'autres, bon, qui vivent ça mal, qui tout le temps tombent malades et qui, en réalité, sont en crise. Dans certains cas, sont même obligés de divorcer. Et dans les meilleurs cas, lorsque le mari arrive à améliorer sa situation, il peut de temps à autre soit revenir lui-même en vacances, faire un mois, deux mois ici, soit faire venir la famille, la femme, dans le cadre en fait de ce qu'on appelle la politique de vie privée et famille. Donc la femme peut bénéficier d'un visa d'un an lorsqu'elle va arriver, avoir la carte de séjour, ou bien si son mari a la nationalité, elle aura la nationalité. Donc cela permet. Donc c'est comme si dès le mariage, elles sont préparées en fait à cette difficulté, parce qu'on sait que l'aventure par nature, c'est quelque chose de difficile. Ça peut être à un moment donné facile ou en tout cas, mais qu'il y a des retombées positives, mais qu'il y a aussi des difficultés, à la fois pour l'homme qui est parti, mais aussi pour la femme qui est restée, et pour sa famille aussi. Mais c'est des choses comme si on s'y porte en espérant que le lendemain va être meilleur. Voilà. Donc la situation, en fait, est mitigée, quoi.
D'accord. Alors, M. Sako, selon vous, quelles peuvent être les contraintes auxquelles les femmes de migrants qui sont ici peuvent avoir?
Je souscris carrément à ce que M. Diko vient de dire, hein. C'est la réalité. Mais il y a une autre réalité, que il se dit que la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. C'est ça l'important. Moi, je suis soninké, hein. Je suis de la région de Kaï, je suis de Nioro du Sahel, c'est vrai. Et partir, c'est notre vocation. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher, mais il faut en allant avoir en tête qu'on a laissé des gens qui ont besoin de vous, qui ont surtout besoin de vous. Vous épousez une femme. Une semaine après, vous partez. La femme reste pendant 5 ans. Elle peut penser à tout. Certes, matériellement parlant, ça peut être compensé. Elle peut avoir chaque mois de quoi vivre. Elle peut être bien habillée, elle peut avoir tout ce qu'elle veut, mais il y a quelque chose de fondamental qui va lui manquer.
Absolument.
Et qui est difficilement compensable.
Ouais.
Et c'est ça qui ouvre la voie à tous les vices. Et Dieu seul sait combien nous en comptons dans notre société. C'est des drames. C'est dramatique. Et en dehors de ça, il y a plein de problèmes, comme il a si bien brossé. Vraiment, je pense que les femmes vivent un calvaire, et nous sommes tous comptables, nous sommes tous interpellés.
D'accord. Alors, Madame Aïdara, que fait le ministère de la promotion de la femme face à cette situation?
Bon, merci bien, mais je vais peut-être aussi me permettre de réagir un peu. Bon, je suis d'accord avec eux, mais moi je placerai le problème à deux niveaux. Au niveau de la ville, Bamako, les grandes villes, ça, peut-être que ça va. Parce que la femme est là, elle est bien logée. Mais généralement, le mari, chaque mois, chaque trimestre, lui envoie l'argent. Vraiment, généralement, ils ne sentent pas tellement ce besoin. Mais quand même, c'est autre chose. Dans les milieux rurales, c'est autre chose. La femme là-bas, c'est un calvaire. C'est à cause, vous savez, quand c'est un calvaire. Parce que généralement, la femme, quand son mari va, la femme n'est pas libre, mais n'est pas responsable. Parce que soit il y a le beau-père qui est là, soit ça dit que le frère, son mari est là. Donc la femme ne fait que subir. Parce qu'elle n'a pas de mot à dire. Même quand son mari envoie quelque chose, tout est envoyé soit au papa, soit au frère aîné. Mais la femme n'a pas un mot à dire. Donc, ce qui fait que c'est un problème délicat. La femme, elle subit, elle souffre. Parce qu'il y a l'absence qui est là. Et aussi, souvent, il y a soit certains besoins qu'elle a, mais pas la voix. Parce que tout est entre les mains de l'aîné ou bien du beau-père. Donc, moi, je veux dire, à ce niveau, si on se place au niveau rural, vraiment, c'est un calvaire. Les femmes souffrent énormément. L'absence est là.
Il y a le transfert monétaire. On peut transférer des gens par téléphone.
Ah, mais sinon, ça, c'est difficile parce que ça dit que les questions sont telles que la femme, une femme mariée, ça dit que c'est ancré dans notre mentalité. On ne peut pas, ça dit, se soustraire à certaines choses. Quand même, quand le mari, en tant que tel, souvent a peur d'envoyer de l'argent à sa femme directement. Parce que ce n'est pas les questions que nous avons reçues. Ce que c'est, que l'enfant, c'est toujours l'enfant de la famille et il y a toujours l'aîné qui est là. Soit pas là, soit son grand frère est là. Donc, généralement, vous trouverez que le mari ne peut pas envoyer l'argent à sa femme sans passer par les parents. Et la pauvre est là, elle subit. Donc, souvent, ça mène souvent des divorces. Nous avons vu un cas, une femme qui a témoigné lors de la rencontre, des journées de consultation sur les questions migratoires, elle a témoigné et dit qu'elle a divorcé. Son mari est parti il y a plus de 5 ans. Et vraiment, c'est difficile pour elle. Mais vraiment, elle a divorcé. Donc, pour dire, en tout cas, si en ville, ça va, apparemment, ça va. Parce que, mais vraiment, en milieu, nos femmes, nos sœurs souffrent énormément. Certaines. Non, d'une manière générale. Hein. parce qu'on peut dire que.
C'est un mariage endogamique aussi.
Oui,
c'est un mariage endogamique. Donc, c'est toujours la nièce de quelqu'un dans le village qui peut lui donner l'argent, en fait. On peut toujours trouver des stratégies.
Mais parce que moi je parle dans le cadre de la famille en tant que telle, parce que là je vois que la femme elle ne peut pas avoir de l'argent sans l'avis de son père. Donc ça, c'est un problème. Bon, maintenant par rapport à ce que vous venez de dire comme question, qu'est-ce que la promotion peut faire? Vous n'avez pas votre question?
Oui.
Bon, là quand même, nous à notre niveau, ce que nous sommes, c'est sensibiliser nos femmes, nos soeurs, nos femmes, nos filles, vraiment pour vraiment se prendre en charge, c'est-à-dire à travers des activités. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, vraiment, comme on dit, le développement de la vie est tel que l'homme à lui seul ne peut pas tout prendre en charge. Il faudrait que la femme, elle aussi, vraiment participe, vraiment, au développement, c'est-à-dire à la famille.
D'accord.
Donc voilà. Donc pour cela, il fallait obliger.
Si vous faites moins de mariage et de baptême, vous voyez.
Le cas social.
Voilà.
Ah, mais vous aussi, vous êtes là, parce que souvent aussi, vous êtes aussi consentant.
Absolument.
Donc c'est pour dire que, vraiment, c'est, en tout cas, la promotion est en train de faire, c'est surtout encore de former les femmes. Parce qu'on dit que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont là qui n'ont pas assez de formation. Les former par rapport aux activités qui pourraient leur apporter des ressources. Alors, en ce moment, même le mari va être soulagé. Parce que si une femme est en train de faire la teinture, elle a de l'argent avec ça. Le mari peut être soulagé. Elle dépense pour prendre en charge. Donc tout ça, c'est pour au bout du rouleau, vraiment amener une autonomisation économique de la femme. Et c'est sur ça que le ministère est en train d'œuvrer, à travers plusieurs activités, formation, sensibilisation. Il y a beaucoup d'activités en train de mener pour les femmes. Et nous sommes sûrs qu'à l'heure actuelle, les mentalités commencent beaucoup à changer. Parce que les femmes même ont plus conscience de ces différentes affaires. Elles demandent elles-mêmes d'être formées, d'avoir des ressources pour faire face à certaines choses.
D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Dicko, avec tout ce que Mme Aïdara vient de citer tout de suite, selon vous, que faut-il faire de plus pour faire face à cette situation?
Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà capitaliser toutes les initiatives faites, parce que le ministère de la Promotion de la Femme fait beaucoup de choses. Il y a aussi le ministère de Malien de l'Extérieur qui aussi, en fait, a en charge ces questions. Donc il faudrait à un moment donné, je pense, donner la main, que chaque acteur ne travaille pas seulement seul et que les uns et les autres travaillent ensemble. Mais je pense que ce qui est important, c'est de veiller à maintenir longtemps les filles à l'école. Parce qu'une fille qui va à l'école, qui a un diplôme, à un moment donné, peut être autonome et peut contribuer, peut même réfléchir pour se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et même si on lui donne de l'argent, ne pas seulement tomber dans le gaspillage et avoir des projets de vie. Donc je pense que la question de l'éducation est fondamentale. Parce que malheureusement, dans ces communautés à forte migration, vous trouvez que les filles sont mariées en fait à 13, 14, 15 ans maximum. Et donc, généralement, le mariage précoce est synonyme d'arrêt des études. Et une femme mariée précocement qui a son mari en fait en migration est une femme dont l'avenir a été hypothéqué d'une certaine manière. Donc je pense que c'est vraiment le cri de cœur, ce serait de faire en sorte que les filles soient scolarisées davantage et maintenues le plus longtemps possible en fait à l'école. Voilà, c'est là. Parce qu'une femme éduquée, c'est des enfants qui sont bien portants, éduqués, et c'est aussi une nation qui se développe.
D'accord. Alors, M. Sakho, selon vous, que faut-il faire pour faire face à cette situation ?
En plus de tout ce que vient de dire madame, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur l'information. Il faut mettre des centres d'information sur la migration dans toutes les capitales régionales ou dans les chefs-lieux de cercle. Parce qu'aujourd'hui, on dit que Kayi est la région la plus indexée, hein, mais si Kasso et Ségou sont en train de talonner Kayi aujourd'hui. Hein? On est même en train de dire est-ce que Sikasso n'est pas premier à la place de Kayi en matière de migration. Donc ça veut dire que le phénomène est général. Donc il faut multiplier, il faut ouvrir les autoroutes de l'information et faire des centres d'information sur la migration dans presque toutes les capitales régionales. Je pense que ce serait un début de solution, comme l'a dit M. Diko. Et puis, il faut maintenir le plus longtemps possible les filles à l'école. Il faut les maintenir jusqu'au niveau bac, minimum, sinon plus. Sinon, vraiment, quand la femme se met à la migration avec tout ce qu'on voit tous les jours, c'est vraiment dramatique. J'ai peut-être une petite anecdote à ajouter, parce que j'ai été dans une enquête dans la région de Kayi où une femme en larmes s'est confessée. Il a poussé ses deux garçons à partir en laissant leur femme avec elle. Les deux femmes ont contracté des grossesses avec les frères de son mari. Voilà. Elle, en partant à la mosquée, les gens l'indexent. Voilà la femme qui a des enfants de telle nature dans sa famille. Voilà. Elle dit qu'elle prie, elle sait que sa prière ne va nulle part. C'était en larmes pratiquement. C'est dramatique.
Alors, je voudrais ajouter, c'est possible pour dire aussi que cette migration, ce n'est pas uniquement vers l'Europe. Hein. Parce qu'on voit maintenant dans la sous-région, c'est extraordinaire. Voilà. Ceux qui vont dans les pays, dans d'autres pays. Donc c'est aussi un problème. Et chaque fois, on voit quand même souvent des cadres qui viennent déverser à Bamako, les familles entières. Donc c'est pour dire aussi que c'est pas seulement. Il faut seulement voir l'Europe, hein. Mais en Afrique ici. Par exemple, moi, je me dis souvent quand on parle d'intégration africaine. Je pose la question. Est-ce qu'il y a vraiment une intégration africaine? Si déjà entre nous, on n'arrive pas à nous accepter, donc c'est aussi question à voir. C'est ça.
Cela met fin à ce débat. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à nos invités qui étaient sur place avec nous ici pour parler de la journée panafricaine de la femme sous le thème JAR et migration. Nous avons Mme Aïdara Bernadette Keïta, conseillère technique JAR au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Nous avons le professeur Brema Elidiko, sociologue et journaliste Idrissa Sakho des Échos. À la présentation, Fatmata Togola, la mise en onde de Sedumbo, à la régie vidéo P. Tingjara, c'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Moundi.
Chenne Berry.